Deux escaliers conduisaient vers une plateforme d'où les pèlerins pouvaient venir embrasser le saint par derrière et, selon une tradition rituelle, déposer un instant leur chapeau sur sa tête. Encore au-dessus, dominait un pupitre, soutenu par quatre anges, où chevauchait un autre saint Jacques, la cavale dorée, qui de sa main gauche tenait un étendard blanc et de la droite une épée, avec laquelle il terrassait deux païens agonisants, foulés aux pieds de son cheval. Andreas, se fiant au plan qu'il avait découvert, passa derrière l'autel, souleva un épais tapis à ses pieds, et découvrit, fébrile, une large trappe, laquelle était fermée à l'aide d'une grosse serrure. Ici se trouvait donc l'entrée de cette crypte interdite aux visiteurs, et qui, soit dit en passant à l'adresse du lecteur curieux, le resta encore pendant de nombreux siècles, avant qu'on ne la redécouvrît, la décora et l'offrit enfin au regard des pèlerins. Les doigts tremblants, l'apothicaire attrapa le trousseau de clés qu'il avait mis à sa ceinture de dominicain et chercha en vain celle qui devait ouvrir le passage. Il dut les essayer toutes, deux ou trois fois, avant de se résoudre à l'idée que ce coquin de chanoine s'était bien gardé de lui remettre celle-là, ou plus probablement que le père abbé ne la possédait pas lui-même. Il pesta. Et son juron résonna sous l'immense voûte de la cathédrale, si fort qu'il s'en trouva presque gêné, quand bien même il fut seul et assez peu avare en blasphème. Plutôt que d'attirer la suspicion du père abbé en retournant auprès de lui réclamer la seule clé qui manquait, il décida d'employer la force, ce qui fut plus facile à concevoir qu'à réaliser. Après avoir cassé, en voulant s'en servir comme levier, deux calices en or, une patène et un ciboire en argent, lesquels à eux quatre devaient bien avoir deux ou trois siècles d'ancienneté, il sauta de rage sur la trappe et lui donna une belle série d'inutiles mais jubilatoires coups de pied. Il envisagea un instant d'utiliser l'épée que tenait au-dessus de lui la statue de saint Jacques, mais estima que l'apôtre devait y être bien accroché. Et il se rabattit donc sur le pied en fer de l'un des innombrables bougeoirs qui entouraient le cœur. Cette fois, il vint à bout de la serrure, et la trappe s'ouvrit enfin sous ses doigts. Il découvrit alors l'escalier qui s'enfonçait sous l'autel. Emportant avec lui un gros cierge allumé, il commença à descendre, courbant le dos pour ne pas se cogner la tête tant le passage était bas. Le souvenir du souterrain de l'église Saint-Gilles, qu'il avait si souvent parcouru dans son enfance, et par lequel il s'était enfui le jour où il avait quitté Paris, lui revint immanquablement en mémoire. Comme lui revinrent en mémoire les nombreux autres où, dans sa fuite, il avait dû s'engouffrer. Cette quête ne cessait donc de l'emmener dans le ventre de la terre, et il ne put s'empêcher de songer à l'origine grecque du mot crypte, cryptos, qui désigne ce qui est caché. Quel secret enfoui allait-il découvrir dans celle-là? Ah donc, après avoir descendu prudemment la dernière marche, il découvrit à la lumière de sa flamme ce mystérieux caveau caché sous l'autel de la cathédrale. Si religieux fut-il, Andreas dut reconnaître pour lui-même que l'endroit semblait avoir quelque chose de sacré, de magique presque. Ici se mariaient ruines anciennes et constructions modernes, car on avait bâti ce mausolée à l'endroit même où avait été détruite l'église antérieure. Et il paraissait que, de l'un à l'autre, le tombeau n'avait pas bougé. Il était là, rectangulaire et massif, immuable, solennel, comme un monstre endormi au milieu de cette chapelle interdite. Si aujourd'hui l'on a fabriqué pour la dépouille une belle sépulture d'argent, à l'époque, ce n'était qu'un austère tombeau, entièrement fait de marbre blanc. Ce qui n'était guère étonnant car celui-ci, avec le jaspe et la marcassite, se trouvait abondamment dans les montagnes de Galice. Andreas, d'un pas lent, fit le tour du tombeau caressant sa surface lisse et blanche du plat de la main. Et ses doigts laissèrent derrière eux des traces rectilignes dans la poussière. Il se remémora alors les paroles de Dias. À la dernière heure d'une nuit claire, la vérité vient à l'homme qui se penche sur le tombeau de Priscilla. À considérer que cela fut bien le dit tombeau, Andreas eut beau le regarder avec insistance, aucune